Bienvenue à mon bac.
Ce terme que tu cherches à représenter visuellement, alors excuse-moi, je le dis, dans tout qui, c'est comme ça on gagne du temps, ce qui fait scène à la fois dans l'environnement et dans l'œuvre sonore, mes choix d'écoute, mes choix plastiques, ce qui déclenche et motive ces choix, et ce qui apparaît dans et par ces choix, par exemple, la manière dont s'y transcende la notion de paysage, de figure, de forme et de fond. Parce que, est-ce que quand on ne voit pas, on voit quand même ce sont de véritables atouts dans ma recherche actuelle, parce qu'elles me permettent d'examiner à la fois la perception et la représentation, la sélectivité de l'écoute et du regard, ou leur interactivité, le syncrétisme du son et de l'image et leur capacité à transmettre le spectre sensible. Elles me permettent aussi de poser la question si le regard intervient dans notre ouïr ou encore si le son représenté et exprimé change le voir. Ces images en tout cas, ou pour mieux dire ces imageries, parce qu'elles recouvrent tous azimuts un ensemble de représentations de style défini, et vous allez voir défiler un certain nombre, se compose de dessins et de figures réalisées à la main, parce que j'y tiens au geste individuel, parce que c'est bien celui-là qui m'intéresse, c'est-à-dire l'individu sonore, de visuels scientifiques. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans des laboratoires pour comme à Croé ou encore sur le campus de Supélec, où j'ai pu travailler sur ce lien entre dessin et wave field synthesis, c'est-à-dire le son en 3D. Et des métaphores dans le domaine de la langue et des signes et d'images qui se forment dans l'esprit, parce que ça aussi ça m'est important. Je reviens effectivement sur cette histoire de forme et de fond. Elles décrivent le sonore au moyen de cartes, de représentations morphologiques et de volumes, et dévoile le comportement de la matière sonore dans le sens qu'elle réagit à l'environnement présent, par exemple aux phénomènes climatiques, thermodynamiques et aux obstacles qu'elle rencontre. Mais elle laisse surtout apparaître des textures, et ce terme, je l'emprunte à mon cursus tissage, j'ai envie de dire, c'est-à-dire comme le tissage est à l'origine d'un certain nombre de systèmes, notant par exemple que le métier à tisser jacquard est à l'origine de notre ordinateur, et ça permet des systèmes d'écriture oui, non, présent, absent. Je me suis aussi servi de cela.
Est-ce Mais que tu veux textures... que je mette la photo jacquard?
Oui. La troisième déjà. Donc je vais rentrer, c'est vraiment, je finis avec une dernière phrase et après on rentre dans le vif du sujet. Donc ces textures dégagent un sensible propre qui peut nous renseigner sur la manière dont ces phénomènes affectent nos ressentis, se prolongent dans nos imaginaires et sur le comment ils agissent sur nos représentations. Alors maintenant, vous voyez déjà une première image. Alors vous voyez que c'est un dessin réalisé sur papier millimétré. Vous voyez qu'il y a du oui et du non, c'est-à-dire présence-absence. Vous voyez une sonoscène, c'est-à-dire qu'on voit une image globale, alors que je ne l'ai pas, je l'ai dessiné successivement. Première chose, quand je dessine, je m'intéresse à des phénomènes sonores présents dans l'environnement sonore. C'est-à-dire je ne diffuse rien. C'est un peu à la manière d'un peintre qui irait scruter des éléments de paysage qui l'intéressent. Et en fait, là, J'étais assise près d'un mur, d'ailleurs vous le voyez bien, le trait continu du haut en bas à gauche, c'est en fait un mur. Et puis vous avez par la suite l'autre contexte, parce que ce mur de soutènement donnait sur une vallée. Notons encore que c'était dans un paysage alpin. Il faut peut-être que j'introduise aussi que je ne dessine pas à n'importe quelle heure, parce que l'écoute se révèle un peu à la manière d'un photographe, très bien le matin, donc disons de 9h à au plus tard midi, et de nouveau vers 17h et plus tard, parce que le reste de la journée, des phénomènes thermodynamiques vont intervenir, vont flouter le son, ou encore le bruit de fond va être tellement important que j'arrive à moins bien déceler mon motif. Bon, ça c'est pour le contexte général et ça compte pour tous les dessins que vous allez voir. Ici, vous allez voir donc le oui et non, et on voit déjà qu'il y a donc des choses qui s'absentent. Ces choses, les blancs que vous voyez, c'est en fait des obstacles du type arbre, du type éléments architecturaux qui vont masquer le son. Et c'est bien ça qui m'intéresse, c'est-à-dire quelle est l'image globale de quelque chose qui se déroule dans le temps, mais où on aurait des récurrences de motifs et de formes. Alors on peut passer à l'image suivante. Vous voyez ici ce que je veux dire par forme. J'ai pris une photographie, comme j'ai vécu très longtemps dans le sud de la France, j'ai pris ici une photographie, toujours dans les Alpes-Maritimes, et vous voyez le reste d'un paysage après une avalanche. Quand on regarde cette image, on voit bien sûr la destruction, mais on voit tout de suite une forme. Alors il y a une forme de base qui serait notre scène. Et je parle non seulement de la forme triangulaire, je parle aussi du relief. C'est-à-dire que toute la morphologie du territoire qui s'offre à nous et qui est vidée ici par une avalanche. Si on passe à l'image suivante, on voit que cette forme, elle est volumineuse. Mais si on regarde bien, elle n'a pas seulement rempli cette forme triangulaire, mais elle dégage elle-même le relief que le paysage lui a offert. C'est-à-dire la neige s'écoule sur quelque chose qui n'est pas plat. Et c'est bien ça qui, si on revient sur le jacquard, donc le papier millimétré, Laure, tu y es peut-être. On est ici devant une image qui montre d'une part le socle de ce que j'entends dans le son, c'est-à-dire le plan, mais vous voyez aussi que, par exemple, qu'il y ait des rouges moins forts et des rouges plus forts. C'est une mise en relief, justement, qui veut sortir du plan et qui va essayer de montrer ce volume montant et tout en ayant en même temps le plan du territoire que j'aurais dessiné. Alors, il faut imaginer que ça fonctionne comme une échographie. Vous avez tous déjà vu une échographie, mais une échographie visuelle qui me permet de me souvenir du volume et du plan de la sonoscène que j'aurais dessiné. On va parler un petit peu de perception, donc on passe à la diapo après l'avalanche, donc en fait la 6 et la 7 surtout. Donc, panorama d'écoute. Laure, tu me fais toujours signe si tu y es ou pas.
C'est bon.
Ici, vous avez un autre type d'étude Parce que quand on écoute, on ne reste jamais stable. Nous bougeons toujours un tout petit peu la tête, ce qui fait que nous captons justement la dimension 3D, c'est-à-dire comme on se déplace avec notre tête, même des petits hochements de tête permettent effectivement de capter le tout autour d'un nuage sonore, d'un motif sonore. Et vous avez ici juste un extrait, parce qu'en fait, c'est une étude où je me suis intéressée à ce hochement de la tête, c'est-à-dire comment il y a une densification et en même temps un tout autour d'un motif. J'ai mis un rond dessus parce qu'on voit que tous ces petits points, notamment ceux à droite, on voit une accumulation, ce sont des points depuis un même point de vue. C'est-à-dire que vous voyez que la tête s'est déplacée. Oui, donc posez toujours des questions éventuellement si vous ne comprenez pas tout, parce que c'est très important pour pouvoir rentrer dans la manière que j'ai de dessiner et d'observer.
Moi, je veux bien poser une question alors, Éléonore. La tête, c'est le rond ou les points?
Alors, la tête, c'est en fait, ici, il ne faut pas imaginer la tête comme un phénomène physique, mais comme un phénomène de trajectoire. C'est-à-dire, les petits points, ce sont des points où je capte un motif, par exemple un son. Donc, c'est les petits gris ou les petits noirs, c'est toujours le même son, mais qui est plus ou moins évasif, c'est-à-dire plus ou moins faible en fonction du mouvement même minime de la tête. Et on voit qu'il se déplace alors que c'est systématiquement le même son. Vous avez compris ? Imaginons que vous pointez avec votre stylo sur une feuille et ce stylo montre un son, donc, parce que là j'ai écouté un son à répétition, le même. Et pendant que vous dessinez, vous fermez les yeux et vous dessinez chaque fois où vous l'entendez. Comme le corps se déplace, vous ne l'entendez pas au même endroit. D'accord ?
Et le grand rond, c'est quoi du coup ?
Le grand rond, c'est juste pour montrer la zone de déplacement d'un seul son. C'est-à-dire l'accumulation de tous ces sons, la superposition de tous ces sons. C'est-à-dire, en fait, on voit ici la trajectoire temporelle d'un même motif. Ensuite, ça permet peut-être la prochaine diapo vous permet de voir ça différemment. Ici, j'ai photographié l'eau. On voit par exemple, alors l'eau, vous allez dire que ça ressemble à une peinture. Oui, parce qu'effectivement, il y a intensification dans l'eau. D'abord, c'est des turbulences, mais il y a aussi des profondeurs. Et quand on regarde attentivement l'eau, on peut là encore voir un relief. On va passer à l'image suivante. Ici, j'avais étudié un canal. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce mur de soutènement. Donc là, on est en dessous du mur de soutènement. Et on voit très bien que l'intensification du motif se fait par cette pierre que vous voyez à droite, qui fait que l'eau détourne un obstacle. Donc, quand l'eau détourne un obstacle, il y a un changement du bruit de fond que produit l'eau qui s'écoule. Je me suis donc intéressée à comment dessiner, toujours par oui-non, donc le motif et comment il se déplace dans l'espace. Alors, ce n'était pas du tout compliqué parce que là, j'avais préalablement tout simplement donné un indice à un petit groupe d'enfants qui avaient entre 3 et 6 ans. Et je les ai fait longer un canal d'eau et je leur ai dit, vous ne regardez pas, mais vous prenez des petites pierres, des galets, et vous les déposez sur le mur du canal pour me dire, là, il y a un changement dans le son qui continue. Et après, on a regardé et il y a eu des endroits où il y avait plus type de pierre, il y avait des endroits où il n'y avait pas de pierre du tout, toujours sur le principe oui-non. Et après, je leur ai expliqué à quoi c'était dû, c'est-à-dire il y a des obstacles dans l'eau qui font que tout d'un coup ça devient plus bruyant, où l'eau s'écoule sans obstacle et donc du coup on a l'impression que c'est plus silencieux. Et bien sûr, j'ai peaufiné par la suite ça sous forme de partition parce que ça m'a permis de conserver la dimension patrimoniale de l'écoute de ce canal. Donc si on enlève aujourd'hui cette pierre, je saurai la resituer dans le cours d'eau grâce à ce motif. Vous avez le prochain plan, le prochain diapo, vous avez encore une fois la simulation de ce canal et vous voyez que c'est un tout petit canal, on voit encore la pierre. On voit aussi que le motif est reporté, c'est-à-dire entre ce que je vois et ce que j'entends, il y a toujours un écart temporel parce que bien sûr, le son se déplace. C'est-à-dire que la pierre qu'on voit va dégager un son qu'on entend un peu plus loin. Donc c'est pour ça que le motif, que les trois points directement après la pierre dans le canal, il est reporté. On a une autre simulation, donc la prochaine diapo, pendant la nuit, où j'ai mis en valeur en fait les points d'intensité sonore, c'est-à-dire là où il y a les petits cônes très lumineux, c'est là que le motif est le plus pertinent. On peut passer maintenant à la prochaine diapo, donc patrimoine sonore. Alors je viens de parler du patrimoine sonore de ma in situ, du type paysage, auxquels on ne prête pas suffisamment attention parce que nous vivons tous dans des espaces sans forcément attribuer une dimension esthétique à notre environnement et une dimension esthétique à l'architecture invisible qui nous environne. C'est bien plus pertinent déjà quand on passe dans des situations architecturales où on serait devant une acoustique bien affirmée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le paysage sensible, c'est-à-dire ce que j'appellerais moi le patrimoine sensible et le patrimoine émotionnel. Mais loin de m'intéresser qu'à ça, bien sûr, pour créer des référents et pour voir comment ça fonctionne, pour voir aussi comment les architectes ont pu signer des environnements, je me suis aussi intéressée, bien sûr, à l'acoustique en lien avec l'architecture. Donc, on peut passer, par exemple, à la prochaine diapo. Donc là, vous avez une simulation d'une acoustique qui m'a intéressée pour la chose suivante. C'est en fait une cité radieuse, Le Corbusier, elle se trouve à Brié en Lorraine vous connaissez peut-être tous le modulor, donc c'est-à-dire le plan entre corps et architecture de Le Corbusier. Quand on approche les cités radieuses, et on peut dire que c'est le cas presque dans toutes ces cités, c'est-à-dire que ce sont de grands bâtiments massifs qui créent un front en béton, mais qui souvent s'ouvrent vers des plateformes ouvertes. Quand on les approche, on entend nos pas résonner dans l'environnement. Et en fait, j'ai constaté que cette résonance se passe d'une manière similaire du plan que Le Corbusier avait dessiné pour le schéma, en fait, le schéma qui indique les proportions entre corps humain et architecture. Parce que là, le corps humain, il est vraiment présent parce qu'il approche le bâtiment. Il va progressivement en fait s'y projeter, c'est-à-dire si je suis loin, le corps de bâtiment il est petit, et si je suis plus près, le corps de bâtiment est immense, c'est-à-dire je travaille ici sur la perception. Imaginons encore que les pas résonnent, mais vraiment d'une manière progressivement forte et diminue. Et donc, j'ai tout simplement fait une simulation ici du plan du modulor que je projette sur la façade un peu à la mesure de ce qui se passe acoustiquement. Et ça, ça m'a vraiment frappée parce que le plan du modulor, qui est un plan purement visuel, mais qui est un plan de mesure, s'applique ici aussi à l'acoustique. Et paradoxalement, ça produit de la nuisance dans un premier temps. Oui.
Oui, Eleonore, ça avait bugué, mais c'est bon.
Oui, bon, peu importe. Je ne sais pas jusqu'où on est allé.
Alors, justement, je regardais.
La nuisance sonore des pas.
La nuisance sonore, les pas, et on en est à la diapo 13, et du coup, voilà, si on va finir plus tard,
alors,
40,
okay.
Mais,
okay.
9h40, mais voilà, disons vers 10h.
D'accord.
Attends, okay. Je te remets en plein... Par contre, on n'a plus ta vidéo.
Ok, vous l'avez maintenant?
Ouais, c'est bon.
Ok. Oui, alors, désolée pour cette petite panne technique. Donc, bon, j'avais parlé donc, de nuisance sonore. Alors oui, bon, revenons en deux minutes. Ce qui m'importe, c'est effectivement ce rapport du corps à l'espace, parce que ce qu'on peut considérer être une nuisance sonore est en réalité le contact du corps avec un bâtiment. On peut passer maintenant à l'image suivante. Vous avez ici une autre sorte de dessin. Donc, en fait, vous voyez trois dessins distincts, donc trois motifs, celui de gauche, celui du milieu et de droite. Ici, ce sont des dessins, des croquis que j'ai faits d'acoustique d'église. Alors, vous allez trouver que, dans un premier temps, c'est relativement... organique. Alors prenons le motif de gauche, c'est-à-dire que vraiment j'espère que l'espace est, mais je pense qu'on voit très bien que les styles sont très différents. C'est une église baroque. Je me place au centre d'un espace et j'écoute ce qui se passe. En fait, et dans les trois, j'étais dans la nef. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est comment ça dévoile une acoustique qui renvoie à une utopie de société. Imaginons deux secondes que la voix du prêtre va remplacer celle de Dieu et elle va se répercuter en fonction de l'acoustique de manière variable. Il est évident que si cette voix part dans les coins de l'église ou part vers les hauteurs ou rechute des hauteurs vers le bas, ce Dieu signifié, il est une fois autour de nous, au-dessus de nous ou parmi nous. Et c'est ça qu'on voit ici dans les trois dessins. Donc par exemple, le premier à gauche, il est très 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 central, il est à l'intérieur de croix acoustique. Sur le deuxième dessin, il vient des coins, c'est-à-dire il n'est pas parmi nous. Et sur le troisième à droite, il part des coins pour aller dans le monde. Oui, donc c'est ça qui m'avait frappé parce que ces études, j'ai découvert moi-même j'ai envie de dire, ce qui se passe dans l'acoustique. Et l'acoustique, elle nous frappe au premier abord parce qu'on la vit. C'est-à-dire, on est en contact ici avec une voix suggérée, une voix qui parfois peut être paranoïaque, mais qui parfois peut être politique. On va passer sur l'image suivante, c'est une animation. Ici, vous voyez un plan d'une autre église. Donc, en fait, je fais donc, régulièrement des croquis donc, de destin d'écoute. Ici, vous avez dans un premier temps le plan de l'église de Saint-Jean de Luz, donc dans le Pays Basque. Et ce qui m'avait frappé, c'est que j'y allais et les dessins que vous avez préalablement vus ne fonctionnaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était bien plus graphique, c'est-à-dire plus géométrique. Et je ne savais pas à quoi servait cette église. Et j'étais partie au Pays Basque pour m'intéresser au corrida, en fait, dernière ritualisation de combat. Et quand je suis arrivée dans l'arène, j'ai vu des logos d'éleveurs de taureaux dessinés dans le sable qui m'ont beaucoup rappelé ce que j'avais dessiné dans cette église. Et j'ai donc posé la question, mais à quoi servent ces logos, c'est quoi? Et puis bon, on m'a dit, oui, c'est des logos. Et après, j'ai compris que c'était l'emblème de Louis XIV, en fait, l'emblème du Médoc. Et soudain, je suis revenue dans cette église et j'ai compris que ce que j'avais dessiné, c'était un emblème acoustique. Parce que l'église, donc à Saint-Jean-de-Luz, était le lieu même du mariage de Louis XIV avec l'infante d'Autriche. Et après leur passage, on avait muré la porte. Donc il y a bien eu une intervention acoustique qui suggérait un emblème acoustique. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même dingue. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, on est dans une culture presque exclusivement visuelle. Et à l'époque, les autres sens étaient bien plus présents. Et l'encodage acoustique existe dans de très, très nombreux lieux. Il est parfois très graphique. Il est de toute façon une autre manière d'atteindre et d'imposer son pouvoir au corps présent. Au corps collectif présent. On peut passer à la prochaine image, donc dessin d'écoute et nuages sonores. On peut juste de nouveau, nouvelle image, donc où on me voit sur un site au fourneau et on me voit dessiner. Alors restons peut-être deux secondes sur cette image industrielle. On voit ici un corps de bâtiment assez complexe, des gros tubes, des gros tuyaux. Et ce qui m'avait intéressé, c'était le reflet reflet acoustique qui se produisait sur ces corps pour m'intéresser au patrimoine sonore perdu, parce qu'aujourd'hui il ne fonctionne plus ce haut fourneau. Donc je me suis posé la question, comment ce corps de bâtiment influençait les corps. Donc on peut passer à l'image suivante. Vous avez ici une série de dessins qui essayent de montrer comment je procède pratiquement. Donc en haut à gauche, vous avez deux motifs, donc un en bas, un en haut, que je vais regrouper. Comme vous le voyez en dessous, donc ça fait un cercle. Ce cercle-là, c'est un cercle stéréophonique, parce qu'il faut imaginer, quand je dessine ces types de dessins, je me mets face à un motif et je me retourne complètement pour me mettre de dos à un motif pour avoir la totalité du tout autour entendu. Le trou au milieu, c'est le trou de ma tête parce que je dessine seulement ce qui écoute mes oreilles à ce moment-là. Donc imaginez que c'est l'ombre portée de ma tête qui est au milieu, qui fait que c'est vide. Ensuite, je les superpose pour en faire des volumes, parce que évidemment je fais pas que seulement deux dessins, mais j'en fais plein pour obtenir une morphologie plus complexe d'un motif. Parfois c'est du stéréo, donc un parfait tout autour et un parfait cercle. Parfois ça peut être plus évasif. Pour contrôler, on peut passer à l'image suivante. Vous avez ici une partie du motif et j'avais demandé à un photographe de photographier le reflet lumineux sur les corps de bâtiment. Et on trouve quelques similitudes entre le dessin et la photographie, bien que en haut vous avez mon dessin et en bas vous avez le reflet d'une caméra, c'est-à-dire que ça n'est pas c'est vraiment un tout pris par rapport à un paramètre, mais on voit qu'il y ait des oui non et j'ai tenté, d'ailleurs ce serait trop long de vous expliquer maintenant, mais j'ai tenté à modifier la photographie, donc la tourner presque en demi-cercle. On voit d'ailleurs les points lumineux fabriquent un demi-cercle. On arrive à presque les superposer. Oui, donc, on passe au motif suivant. Donc, vous voyez deux grandes paraboles rouges. Donc là, c'était une exposition que j'avais fait à la Villa Arson avec une collègue artiste. On avait jeté des sons depuis un flat phone dans ces deux paraboles, de manière à ce qu'elles reflètent une espèce de zone sonore à peu près à 60 cm devant le mur. Et vous voyez à droite sur le mur la cartographie de cette zone où je dessine ce qu'on entend, c'est-à-dire les gens pouvaient se mettre dans la zone, l'entendre, et ils pouvaient en même temps tourner la tête à droite ou à gauche, parce que bon, la photographie elle n'est pas très complète parce que la salle ne permettait pas. Donc on voit le dessin préparatif donc dans le slide après. Dans les deux slides d'ailleurs, vous avez ici donc dans Drawing Box, Laure, est-ce que tu y es ? On a vraiment les deux zones, c'est-à-dire les gens pouvaient percevoir physiquement les sons et voir la représentation cartographique de la zone dessinée. Maintenant, on va vite encore aller vers les architectures et de forme rapide. Laure, tu y es peut-être ?
Oui, c'est bon.
Tu peux passer à la première image.
Oui.
Donc là, vous avez un autre type d'étude qui va me conduire à produire des animations. Parce que entre le plan dessiné et le plan morphologique animé, je peux aussi simuler un motif et un volume sous toutes ses coutures. Donc cette première image, vous avez un dessin acoustique d'une fontaine. Alors, toujours imaginez que j'entends l'écoulement de l'eau, j'entends bien plus parce que j'entends aussi bien le débit de l'eau, la force de l'eau, la température de l'eau. Alors vous allez dire, mais c'est dingue, mais bon, je ne le fais pas consciemment. J'ai 17 ans d'études de visualisation sonore derrière moi et 30 ans d'expérience d'écoute, donc forcément, ça a entraîné mes oreilles, mais bon, c'est aussi une disposition. Donc vous avez ici à gauche le motif d'une manière frontale, et à droite, vous avez le motif vu de dessus. Ça a été possible parce que j'ai fait une animation flash. Le prochain slide montre deux fois un motif d'une manière frontale. Alors on voit très bien que la colonne vertébrale du motif est plus ou moins sombre. Ce qui veut déjà dire que le débit de l'eau est plus ou moins fort. Imaginez que tout le monde a déjà vu une fontaine s'écouler avec les giclures. On sait que, en fait, par exemple, le débit, quand il est industriel, c'est-à-dire il y a une certaine vitesse de d'écoulement de l'eau, ou s'il est naturel, ça change l'acoustique. Oui, donc, mais en plus, en fonction, tout à l'heure, j'avais parlé de mon rapport à la thermodynamique ou à l'heure de la journée. C'était encore visible parce que ici, vous avez le même motif à 15 minutes de distance. Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit très bien qu'au début, le débit à gauche, il est moins costaud, il est plus régulier. Parce que le gris au milieu de la colonne vertébrale est plus ou moins le même. À droite, vous avez tout d'un coup une pression plus forte avec... en fait, elle bégaye. Oui, imaginons que le rythme de l'écoulement, il est différent. Mais en plus, il y a modification de la température. C'est-à-dire que tout ce qui vient à droite et à gauche veut dire que il y a l'eau qui, par exemple, est plus froide, sonne plus fort, et l'eau qui est moins froide sonne moins fort. Donc sur le motif à gauche, vous allez avoir une eau qui est partagée, c'est-à-dire la partie gauche sonne plus forte et la partie droite sonne moins forte. Sur le côté droit, vous avez une modification. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une partie du rayon, peut-être de la colonne d'eau, était tournée vers un mur et l'autre ouvert vers un espace. Alors on va passer vite les images suivantes jusqu'aux images de Père. Donc c'est en principe on voit encore une fois ces colonnes vues de face, mais cette fois-ci 6 motifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 motifs d'un seul coup. Donc, tu y es ?
Ouais, c'est bon.
Là, on voit déjà différentes fontaines et on voit que chaque fois, la colonne vertébrale, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'on voit le débit d'eau qui est caractérisable. On voit sur les motifs à gauche qu'il y a même une double colonne. On voit par exemple sur en bas à droite, celle juste un petit peu la deuxième d'en bas à droite, elle est très très régulière et très fine. Face à l'autre image, on a ici une image vue de dessus. Vue de dessus, et encore une fois la prochaine. La vue de dessus, ça ressemble à des cristals de neige. Imaginons, et si vous lisez avec moi, on a 6 motifs. Laure, tu as les petites rosaces là ?
J'en ai plus que... attends. J'en ai plus que 6.
Oui, voilà, parfait. Alors, on est sur les rosaces. Ça se
attends,
lit
regarde.
Du haut vers, le bas.
Est-ce que c'est ça ?
Oui. Non, tu vas un plus loin. Oui,
attends,
c'est parfait.
Elle tourne là.
Non, pas encore. Ah. Retourne. Voilà.
D'accord.
C'est parfait. On voit des rosaces. Ça se dit de haut vers le bas et ça fonctionne par paire. Donc, vous avez les deux premiers en haut, gauche-droite. C'est le même motif à 15 minutes de différence. Les deux suivantes, c'est le même motif, toujours à 15 minutes de différence. Et vous voyez que ça fonctionne par paire, et chaque fois, c'est 15 minutes de différence. Mais entre la toute première, celle qui est en dessous et celle qui est encore en dessous, on voit vraiment des caractéristiques complètement différentes. Oui. Donc en fait, c'est ça qui m'a intéressée, ces morphologies acoustiques, esthétiques, qui sont des formes primitives, je dirais, des formes emblématique et symptomatique qui caractérise une fontaine. Et maintenant, tu peux passer à l'image suivante. Ouais. J'ai fait une simulation donc, du motif, comment il tourne. Et c'est là que vous voyez vraiment bien que la vue de dessus sur ces colonnes d'eau dégage vraiment des caractéristiques singulières. Moi, je vous laisse écouter, je vous laisse voir ça jusqu'au bout. L'heure, tu me dis quand c'est fini.
Quand c'est fini l'animation ou le
oui, cours l'animation. En principe, c'est maintenant.
Ça continue encore.
Oui.
Voilà, c'est fini.
Après, on passe à la dernière image. Et après, je vous laisse le temps de poser éventuellement deux, trois questions. Alors, la question de la forme. Ici, j'ai superposé vite fait deux images. La première est une image de synthèse d'un jet d'eau dans une flaque. Oui, donc, d'un jet de pierre dans une flaque. Donc, on voit bien qu'il y a une turbulence. Oui, on a jeté une pierre dans la mare et ça produit une turbulence qui a une forme d'escargot. Et vous voyez d'ailleurs en bas, j'ai essayé de le simuler avec les deux escargots retournés. Alors, ce qui m'intéresse dans l'idée de la forme sur laquelle j'avais parlé tout au début et de l'architecture invisible, et c'est le rapport au temps. Parce qu'au niveau de l'écoute, on est devant des formes rapides, mais qui sont redondantes dans la nature. Comme vous voyez, l'escargot, il est bien le résultat d'un rythme de croissance qui, lui, par contre, a mis des millénaires. Oui. Et c'est bien cet écart de perception qui m'intéresse. C'est-à-dire que bien au-delà de notre culture visuelle qui pourrait se tromper au niveau de la notion de forme, il y a bien forme, sauf que dans la première image du jet de cailloux dans une mare, cette forme s'est dévoilée en même pas une seconde, et en bas, elle s'est dévoilée dans un espace de millénaires. Et c'est là que ça m'intéresse, parce que quelle forme a entraîné notre perception? Pourquoi ce n'était pas la forme rapide? Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, notamment dans le monde dans notre monde d'accélération et de réseau et de consommation de formes et d'images, c'est comment gérer l'esthétique, une esthétique accélérée. Voilà. Bon, alors ça, c'est évidemment seulement une question, mais j'espère que, bien que ce soit peut-être assez abstrait, j'espère que vous ayez eu quand même un tout petit peu accès à mes réflexions d'artiste et de chercheuse. Et bien sûr, je suis tout ouïe si vous avez des questions.
Merci, Léonore.
Merci.
Il n'y a pas de questions?
Moi, j'ai une question.
Oui.
Quand tu fais des relevés sonores là, dans les églises ou ailleurs, est-ce qu'il y a des sources particulières ou est-ce que c'est l'espace sans...
C'est l'espace sonant. D'ailleurs, au Cresson, on a débattu récemment sur une terminologie du flou. Notamment, il y avait un mot que j'utilise assez fréquemment, c'est le geste ambiant. C'est-à-dire, c'est le geste qu'on peut écouter d'un bâtiment, le retour acoustique, mais c'est aussi les matériaux. Et bien sûr, dans les églises, je me repère essentiellement à l'acoustique, que, par exemple, qui se révèle au travers des pas, les gens qui marchent. Ou le vent qui rentre. C'est assez subtil, mais c'est toujours les sons in situ, donc il n'y a aucune diffusion, sauf dans le seul exemple avec Isabelle Sordage à la Villa Arson, où là, on a carrément mis en place une cartographie sonore que je pouvais dessiner cette fois-ci plus longtemps, parce que ces dessins, je les fais assez rapidement, je dirais. Voilà. Donc, c'est toujours avec des sons in situ.
Je voudrais juste savoir un tout petit détail technique. Est-ce que vous êtes outillé pour écouter, percevoir le son, ou il s'agit d'une perception directe corporelle?
C'est une perception directe. Alors pour moi, c'est pour ça que j'avais tellement insisté au début sur la question de l'individu. Parce que pendant très longtemps, on s'est préoccupé du collectif. Alors que je parlerai de l'individuation du collectif au travers l'individuation de l'individu. Et on ne peut comprendre le collectif si on s'intéresse à l'individu. Et cette disparition de l'individu pose d'ailleurs problème, parce que loin de penser à, j'ai envie de dire, la pure individualisation de la société, même si on y est, mais je m'intéresse vraiment à comment ça fonctionne, parce que comment la perception est d'une part une perception, je dirais, apprise, une perception culturelle, mais nous avons tous nos expériences. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'image, même si on est arrosé tous les jours par l'image, mais il y a des gens qui sont plus tactiles, qui sont plus sonores, qui sont plus portés sur l'odorat, et ils sont en grand nombre. Et ça m'intéresse aussi parce que n'oublions pas que nos outils, et ça c'est ma partie médiologique, j'ai envie de dire, les tablettes tactiles aujourd'hui par exemple, nous engagent corporellement, c'est-à-dire nous les individus, nous faisons des gestes que nous réitérons tout au long de la journée. Hein. Donc, et quel est l'impact de cette gestuelle-là par exemple ? Sur laquelle on pourrait travailler, qu'elle soit plus sophistiquée, plus à même de porter l'individu et de ne pas de faire de lui une machine qui continue de produire une gestuelle commerciale, en fait. Oui. Et donc, cette question, elle m'intéresse non pas pour seulement, on pourrait dire, oui, l'artiste travaille pour lui, et pour rendre vue de sa propre expression. Non, ce qui m'intéresse, c'est comment pourrait-on, par exemple, améliorer des outils existants qui se portent aujourd'hui vers le multisensoriel. On n'est plus seulement dans le voir. Et la tablette tactile, on est un exemple. D'ailleurs, actuellement, je travaille aussi à Supélec avec des chercheurs sur cet aspect de tablette tactile, où je voudrais rendre perceptible l'image aux aveugles et rendre perceptible le son aux voyants par le même outil. C'est-à-dire, comment peut-on sophistiquer ces outils pour qu'ils soient ouverts aux individus, aussi différents soient-ils, et qui ne les formalise pas ou les formate pas. Voilà.
Peut-être juste une dernière question. Hop.
Moi, j'avais une question en fait par rapport à l'escargot en fait, dont vous parlez. En fait, je me demandais si c'était quelque chose que...
J'entends très mal. Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Je voulais vous poser une question par rapport à l'escargot.
Donc, oui.
Vous parlez, en fait, c'est une figure qu'on revoit, qu'on voit tout du long de la présentation, surtout quand il y a les présentations qui tournent, et par rapport à la fontaine. Et en fait, vous avez dit, c'est une morphologie acoustique primitiviste, entre guillemets.
Oui.
Du coup, je me demandais, en fait, si c'était une image que vous avez déjà en tête, en fait, comme quelque chose de... Je sais pas, l'eau, ça vous fait penser à ça, et donc à un escargot. Donc, est-ce que c'était véritablement comme quelque chose de, dans l'expérience, ou est-ce que c'était déjà une idée que vous aviez en tête, en fait, comme vu que vous parlez d'emblèmes acoustiques, sur par rapport à Saint-Jean-de-Luz. Je vous demandais si déjà en fait une idée par rapport à justement ce vocabulaire là de primitiviste et de un peu comme des sédiments, enfin comme dans l'imaginaire qu'on peut avoir autour justement des sédiments qui au fil des millénaires en fait se sont transformés en escargots, etc.
Oui. Excellente question, mais vraiment excellentissime, parce qu'elle elle pose vraiment les jalons de toute une problématique. On pourrait, par principe, se poser la question si notre culture ne nous piège pas et nous fait anticiper la notion de forme. C'est pour ça que j'ai fini avec cette histoire d'escargot, d'ailleurs, parce que je me doute bien que vous allez en conclure que que tout ce que j'aurais dessiné pourrait ressembler à cette notion de forme. Je ne sais pas. J'avoue franchement que c'est, pour moi, c'est quelque chose d'ouvert. Mais ce que je sais identifier, c'est pas, et ce que je peux dire, au niveau protocolaire, je vais dans un lieu sans savoir ce qu'il va me rendre. C'est-à-dire que revenant sur les églises ou revenant sur le Corbusier, donc des formes autres. On a bien vu que je ne dessine pas seulement des escargots. Parfois, c'est une façon de conclure aussi, de même prenant le Corbusier, on pourrait dire « oui, mais elle a voulu absolument montrer que l'acoustique hébergeait aussi un modulor. » Mais cette conclusion, elle est venue après coup, après l'expérience. C'est-à-dire, elle m'a sauté aux yeux ou aux oreilles, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment la manière d'aborder l'espace qui m'a fait connaître ça. Et parfois, autant que dans le modulor, j'avais ma petite culture, mais dans Saint-Jean-de-Luz, je ne pouvais pas savoir. J'ai découvert ça vraiment sur le tas. Parce que, au contraire, quand j'ai commencé à dessiner à Saint-Jean-de-Luz, je me suis dit, merde, tu as perdu la main, tu sais plus dessiner, c'est hyper graphique, là tu es en train de fantasmer, de fabriquer quelque chose de complètement simplifié. Et j'en ai fait, vous vous doutez bien, j'ai fait plein d'autres études, j'ai découvert des espaces paranoïaques, par exemple, lors d'une résidence à Cracovie. On a dompté l'espace, on a fabriqué des galeries chuchotantes, par exemple, sur des formes. Alors, évidemment, il y a toujours ce va-et-vient entre la culture, c'est-à-dire comment faire adhérer des gens à des notions de forme et de les contraindre de suivre un plan chorégraphique, j'ai envie de dire. Et là, je dirais la forme qu'on peut trouver dans la nature. C'est pour ça que je fais toujours ce grand écart entre les motifs naturels et les motifs culturels. Mais n'oublions pas, ce qui fait que ça tourne, c'est bien l'écoute, parce que les oreilles sont à gauche et à droite. Et si je veux avoir un tout autour, je suis forcément dans une turbulence. Je suis au centre d'un espace. Mais c'est ça qui est intéressant avec le son. On ne capte pas la notion de forme qui est vraiment liée au corps humain, l'axe, l'espace dynamique. Là où l'espace cartésien nous projette dans, on sait très bien, distanciation, artefact, objectivation, dans le son, on est toujours à l'intérieur de la forme. Et c'est ça qui m'intéresse, comment on capte cette notion de corporéité, non seulement de notre corps, mais de la matière, c'est-à-dire on est toujours sur un seuil, sur un contact d'un intérieur vers un extérieur. Donc je pense que malheureusement, il faut l'accepter, le corps humain, il produit un axe. Et même l'écoute, mais est-ce que cet axe est forcément complètement symétrique ou non? Et comme on nous a appris avec la perspective une certaine trajectoire géométrique, moi je m'intéresse aux trajectoires qui débordent la pensée géométrique. Voilà.
Merci. Merci, Léonore.